Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour frère Philippe.
Nous changeons d'article du catéchisme. Il est intitulé donc « Jésus-Christ a été conçu du Saint-Esprit, il est né de la Vierge Marie ». Et le paragraphe sur lequel nous commençons, en paragraphe 1, « Le Fils de Dieu s'est fait homme ». Et alors là, nous pouvons être assez admiratifs de ce qui se passe, parce que le titre qui doit interroger un certain nombre de chrétiens, enfin pour peu qu'on ait envie d'entrer, de comprendre, de se laisser saisir par notre foi chrétienne, pourquoi le Verbe s'est-il fait chair ? Et nous allons voir ensemble qu'il y a ici quatre raisons qui se sont données, qui se sont bien données. Nous pourrions nous dire, est-ce que ces raisons se complètent ? Est-ce qu'elles s'opposent ? Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre elles ? Finalement, il n'y a pas une raison unique et fondamentale. Enfin, c'est intéressant de voir cette diversité. Alors évidemment... D'emblée, on peut dire elles vont se compléter, mais c'est peut-être bien de les regarder les unes après les autres pour se rendre compte de ce qui est en jeu. Je ne sais pas si nous pourrons le faire dans notre petit quart d'heure là, ou s'il nous faudra plus, mais déjà, entrons dedans.
Oui, commençons déjà par affirmer ce que nous disons tous les dimanches avec la foi des saints conciles, Nicée, Constantinople, Florence. Et dedans, il est dit « Pour nous les hommes et pour notre salut, propter nos et propter nostram salutem ». Et on comprend très bien que la première des raisons de notre salut, c'est ce qu'a exprimé le plus souvent les Écritures, qui est massif dans son expression. C'est Dieu qui nous a aimés, qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés, 1 Jean 4,10, où le Père a envoyé son Fils, le Sauveur du monde, 1 Jean 4,14, et où Jésus-Christ a paru pour ôter les péchés, 1 Jean 3,5. Il y a comme un premier élément, je dirais le premier génétique, c'est pour notre salut, propter nostram salutem. Mais c'est vrai qu'en amont, il y a une visée plus, finalisante pour nous, les hommes. Donc il y a quelque chose qui reprend le dessein d'amour bienveillant de Dieu depuis les origines, depuis la Genèse, qui était que nous devenions participants de Dieu, participants de sa nature divine. Donc c'est normal que je retrouve en quatrième, terme du catéchisme, cette finalité qui était là depuis les origines. D'ailleurs, c'est ce que le démon essaie de suggérer à Ève en lui disant si Dieu vous a interdit de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est parce que vous risqueriez de devenir des dieux. Or, il lui ment, évidemment, puisque c'était bien le projet par le moyen de l'obéissance et non pas par le moyen de la désobéissance. On comprend très bien que ce projet est là depuis les origines, devenir des dieux. Et Jésus, d'ailleurs, le dit dans ses dialogues avec les scribes et les pharisiens, l'Écriture vous appelle des dieux. Et il y a bien un projet de divinisation ou de déification de l'Ancien au Nouveau Testament. Et c'est bien le projet final que nous devenions participants de la nature divine, comme dit si bien 2 Pierre 1,4, la deuxième épître de Pierre, tout au début. Et entre les deux, qu'est-ce qu'il va y avoir entre cette purification des péchés et cette finalité ultime qui est la participation à la nature divine? Eh bien, les moyens qui vont être mis en œuvre par Dieu pour nous permettre de faire ce retour malgré notre péché, et nous allons avoir la connaissance de l'amour de Dieu qui va se manifester par son Fils qui a donné sa vie par amour pour notre salut, pour nous permettre de retrouver le projet initial de Dieu. Et donc un grand amour va naître en nous de celui qui donne sa vie pour notre salut Et il va y avoir dans la troisième raison, le modèle qui nous est donné, qui est Jésus-Christ, qui est un modèle de sainteté, comme dit très bien le 459. Mmh. Le Verbe s'est fait chair pour être notre modèle de sainteté. Prenez sur vous mon joug et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Voilà. Et on va comprendre que nous allons avoir en Jésus, eh bien, celui qui va être le chemin, la voie et en quelque sorte et la vérité qui va être le terme, le chemin, la vérité et la vie, hein, et qui va être finalement l'aboutissement du retour au Père. Nous sommes sortis de Dieu, hein, par la création, par une sorte d'exitus, nous avons été créés de rien. Et il nous est proposé un reditus, un retour vers la maison du Père, et c'est cela que l'on peut appeler la divinisation. Donc on trouve ces quatre éléments bien agencés comme une réponse à des disputes sans fin qui ont eu lieu au cours des siècles, dans lesquels on voulait opposer à tout prix ceux qui défendaient l'idée que l'incarnation avait comme but de nous sauver de nos péchés, ce qui est tout à fait vrai, et ceux qui s'opposaient en disant que l'incarnation avait comme but de nous glorifier. Les deux se tiennent, hein, et surtout pas les opposer. Mais il y a un passage obligé à la purification des péchés pour être glorifié, ça c'est évident. Et c'est pour ça que l'Écriture commence d'abord par affirmer massivement la nécessité d'être purifié des péchés. Elle nous prend là où on en est. Elle ne nous met pas d'emblée dans une illusion où on pourrait croire que, comme dans la gnose, on pourrait revenir par ses propres forces, par sa propre méthodologie, par des illuminations successives qu'on se procurerait soi-même de retrouver notre identité divine. Non, il faut accepter de se reconnaître pécheur et de passer par les moyens de salut que Jésus nous a laissés.
Ça nous renvoie toujours à cette critique que certains voudraient faire, c'est que dans le christianisme, on ne parle que de péché.
Nous fait souvent cette critique, oui. Tu parles trop de péché, etc. Mais c'est absurde, au contraire, c'est quelque chose de très concret. C'est quand l'homme se découvre pécheur qu'il peut être libéré de son péché. Tant qu'il résiste, il est comme le malade qui ne veut pas montrer son mal au médecin. Le médecin ne peut rien faire. Si vous allez en consultation et si vous ne montrez pas les zones dans lesquelles vous avez mal et les soucis que vous ressentez, le médecin il va dire, écoutez monsieur, vous allez très bien, puisque vous ne déclarez aucun mal, allez-vous-en. Et alors que Jésus vient pour nous arracher ce mal, mais il faut qu'on le lui montre, c'est ça. Oui. Et le péché, c'est ça, c'est reconnaître cet aspect pécheur en nous pour en être libéré.
Tu l'as dit très bien, Dieu part à partir de là où nous en sommes de toute façon. Oui. Je me disais, au fond, en voyant ces quatre raisons, pourquoi le Verbe s'est-il fait chair, donc que tu as présenté, que tu as réorganisé. Je me disais que parfois on peut entendre quelqu'un donner tellement d'importance à l'une d'entre elles que soit il ignore ou il reste très, très dubitatif sur les autres. Forcément, ça fait une foi assez bancale. Par exemple, le Verbe s'est fait chair pour que nous connaissions ainsi l'amour de Dieu. Il y a une certaine manière de poser l'amour de Dieu, de donner une telle importance. Je ne dis pas que ça n'en a pas, hein, évidemment. Mm-hmm. Mais comme si ça devient quelque chose de très théorique ou au contraire très
sensitif parfois.
Oui, c'est ça. Très émotionnel, presque.
Émotionnel, oui.
Donc on voit bien dans ce que tu as présenté qu'il y a, c'est une architecture de ces raisons qui donne un fondement, un socle ferme à la foi.
Oui, et puis on pourrait rajouter aussi que on a parfois voulu opposer Orient et Occident, comme si l'Orient était plus sensible à la divinisation et à cette connaissance de l'amour de Dieu, et que l'Occident aurait plus été dans la ligne de Saint Augustin, marqué par le souci pénitentiel de la reconnaissance des péchés. Or, justement, on a Grégoire de Nice, là, qui est cité dans ses homélies catéchétiques numéro 15, et qui dit cela admirablement sur la nécessité de passer par là où l'on en est. Malade, notre nature demande à être guérie, déchue à être relevée, morte à être ressuscitée. Nous avions perdu la possession du bien. Il fallait nous la rendre. Enfermés dans les ténèbres, il fallait nous porter la lumière. Captifs, nous attendions un sauveur. Prisonniers, un secours. Esclaves, un libérateur. Ces raisons-là étaient-elles sans importance? Ne méritaient-elles pas d'émouvoir Dieu au point de le faire descendre jusqu'à notre nature humaine pour la visiter, puisque l'humanité se trouvait dans un état si misérable et si malheureux? Donc les Grecs ont dit exactement la même chose que nous.
Oui.
Et Grégoire de Nice, c'est vraiment un des Cappadociens, et ça montre bien l'identité de foi. Et c'est une absurdité quand vous lisez des théologiens du 19e, 20e siècle qui ont voulu opposer à tout prix Orient et Occident. Non, il y a une identité de vue avec, bien sûr, de légitimes modalités pour le dire, c'est clair, mais on retrouve tout à fait les mêmes choses en Orient et en Occident. Et ce sont les Écritures, d'ailleurs. On ne peut pas supprimer les Écritures, comme dit saint Paul. Et en ceci, nous savons que c'est bien ces quatre raisons qui doivent sans cesse être balayé, agencé dans nos prédications pour que notre discours ne soit pas déséquilibré et qu'on permette à chacun finalement de faire ce reditus dont on parlait au début, ce retour à Dieu le Père par le biais de la conversion et de la découverte de l'amour sur le modèle de Jésus pour finalement devenir participant de la nature divine.
Bien, merci de nous avoir fait entrer de cette façon-là, frère Édouard, dans ces quatre raisons, sur le pourquoi le Verbe s'est-il fait chair. C'est une belle méditation, en plus d'être une belle confession de foi.
Merci.